Mario Casé Oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est une question de moralité au cas de langage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la politique de maîtrise des gens, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre pour ce 57 minutes interactives sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Dans une lettre ouverte adressée samedi 8 août aux chefs des gouvernements congolais et ougandais, les organisations de la société civile environnementale de la région des Grands Lacs exigent l'exploitation prochaine du pétrole par l'Ouganda dans les lacs Édouard au niveau du bloc Kangangi en République démocratique du Congo. Ces organisations estiment que si l'exploitation se passe du côté ougandais, il y a une possibilité que les effets soient ressentis en République démocratique du Congo. Un point de vue que ne partage pas le gouvernement congolais. Certains observateurs proposent plutôt que la RDC et l'Ouganda discutent et évaluent les risques environnementaux avant toute exploitation parce que ces deux pays ont signé plusieurs conventions qui protègent les parcs de Virunga, un patrimoine mondial. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081-890-7315 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Alain Goy assure la mise en onde de ce programme sous la réalisation de Julie César Bongonda. Ce programme vous est coordonné et présenté par J.R. Mugembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Mugembo.
La République démocratique du Congo renferme une réserve considérable de pétrole brut, peut-être 6% des réserves du continent africain. Elles sont pour la plupart localisées au Bas-Congo, la Kivelle centrale et les Grabens albertines. Bien qu'en 2012, les recettes du pays issues de l'industrie pétrolière s'élevaient approximativement à 500 millions de dollars et représentaient 7% du budget, la production de pétrole brut est restée au même niveau, en moyenne 25 000 barils par jour. Voilà. Alors, au regard de ces chiffres, il est estimé que le pays a un potentiel de développement significatif. Le gouvernement de RDC a affirmé sa détermination à promouvoir le secteur pétrolier et bien entendu, à ces jours, donc, il y a une législation pétrolière et gazière qui a, en fait, après que le secteur ait subi une réforme. Donc, pour dire, la semaine dernière, le chef de l'État a promulgué la loi portant régime des hydrocarbures. Voilà qui a ces dossiers au niveau de l'exploitation du pétrole autour de Pacte de Virunga. Félicien, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Ce que je ne comprends pas, que tous les voisins de la République démocratique du Congo exploitent le pétrole, exploitent les gaz, dans les limites des frontières avec la République démocratique du Congo, le cas de l'Angola, le Rwanda et l'Ouganda, et la République démocratique du Congo est là à observer, à regarder, à ne rien faire. Et il est encore au niveau de prospection, au niveau de chercher des textes ou voter des lois qui doivent régir l'activité. Mais dans entre-temps, les autres sont en train de développer leur pays avec les ressources provenant de ces matières premières et ils ont des budgets qui vont entre 30 et 50 milliards de dollars. Et nous, quand on a 7 milliards de dollars, le gouvernement table le champagne. C'est comme si vraiment nous n'avions pas droit à toutes ces richesses que Dieu nous a données. Et dans l'entretemps, ils sont en train de soutenir les voisins à exploiter, alors que la pollution est consommée aussi par les Congolais qui sont dans ces frontières-là. Et ils sont, c'est comme s'ils sont en train de protéger, de soutenir les autres. pour qu'ils puissent détruire l'environnement et où le peuple congolais. Comment est-ce que le gouvernement peut soutenir ou bien refuser ou abandonner des arguments disant que il n'y a pas risque si les voisins sont en train d'exploiter là-bas, il n'y a pas risque environnemental au Congo. Mais moi, je pense que pour des cas comme ça, on a besoin d'en appeler à la communauté internationale qui a aussi les parcs, qui en fait les parcs sont un patrimoine mondial qui est protégé par la communauté internationale, et la population congolaise aussi doit être protégée par la communauté internationale, parce que si nous comptons sur le nom des gens, nous des gens sont préoccupés par leurs intérêts personnels, par l'enrichissement illicite sans cause, et ils ne voient pas l'intérêt de la population, ils ne voient pas que la population peut subir des effets néfastes de l'exploitation de gaz et de pétrole par les voisins. Et ils sont en train de les soutenir, et ils savent même pourquoi ils le font. Donc moi je pense que moi des gens doivent quand même avoir une dose de patriotisme et de l'amour de leur peuple. Ils doivent pas se comporter de cette façon-là. Je vous remercie.
Merci beaucoup Félicia. Vous estimez que aujourd'hui la vitesse avec laquelle les voisins se s'activent donc pour exploiter les pétroles et les gaz, en tout cas autour dans les périphéries donc de la RDC, ça prouve insuffisance que le monde a atteint une vitesse de croisière et pourquoi la RDC doit normalement traîner les pieds, d'autant plus que on a tout le potentiel pour y arriver. Mais je l'ai dit tantôt, Félicien, qu'il s'est posé d'ailleurs un problème au niveau de la législation pétrolière et gazière, qui devait subir quand même une réforme. Et nous y sommes déjà aujourd'hui avec cette loi portant régime des hydrocarbures. Je crois qu'à ce niveau-là que le gouvernement peut se réjouir dans la mesure où il peut penser déjà résoudre quelques défis qui entourent en fait l'exploitation ou encore la production pétrolière et gazière en République démocratique du Congo. Merci beaucoup Félicien d'avoir appelé. Nous lisons les messages de Franck Mboni qui nous a écrit de Vienne. Alors il dit le dossier de l'exploitation pétrolière par l'Ouganda dans les lacs Édouard du niveau du bloc Ngali dont il est question aujourd'hui, il est délicat car il s'agit de l'exploitation d'une matière assez sensible. Il est glissant car en dépit de la dénonciation faite par ces organisations de la société civile de la région des Grands Lacs, le gouvernement congolais semble en faire une autre lecture. Il doit être clairement détaillé car ça nous semble comme un arbre qui va cacher toute une forêt. Juste quelques questions qui nous préoccupent pour en avoir des idées plus précises. Sur base de quelle étude et expertise environnementale sont fondées les craintes de toutes les organisations de la société civile de la région des Grands Lacs et quelles sont les retombées positives du gouvernement congolais si jamais cette constatation devenait effective du côté ougandais? Voilà, nous avons déjà en ligne son excellence monsieur le ministre des hydrocarbures à qui nous allons accorder la parole d'un moment à l'autre. Le temps de vous rappeler, chers auditeurs, que vous pouvez également participer à ces débats, à cet échange de citoyens en composant bien entendu les 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir du point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un geste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.fr.
Voilà, si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, ces cadres d'échanges citoyens. Avec vous, Crispin Atama, ministre des Hydrocarbures, bonjour.
Bonjour.
Voilà, nous parlons d'entrée des jeux de cette loi portant régime des hydrocarbures qui venait d'être promulguée par le chef de l'État. Est-ce qu'on peut nous faire une idée très claire sur les innovations de cette loi?
Effectivement, c'est une loi qui apporte beaucoup d'innovations. Il faut reconnaître dès le départ que nous ne disposions pas d'une loi qui régit le secteur des hydrocarbures. La loi qui vient d'être votée, promulguée le 3 de ce mois-ci par le chef de l'État, apporte beaucoup d'innovations. Prenez, à titre indicatif, cette loi fait une part distincte entre ce qu'on appelle la prospection, l'exploration, l'exploitation et l'évaluation des ressources pétrolières. Cette loi accorde un partage équilibré entre les sociétés pétrolières et l'État. Il faut reconnaître que la nouvelle loi affirme la propriété de l'État congolais sur les ressources naturelles, notamment les hydrocarbures, jusqu'au point d'évacuation vers l'extérieur, d'exportation, si vous voulez. Cette loi affirme l'autorité, la propriété de l'État sur les données techniques et scientifiques issues des activités pétrolières. Cette loi considère donc aussi bien le pétrole conventionnel que non conventionnel que nous devons exploiter. La loi a levé l'option pour les CPP, c'est-à-dire le contrat de partage de production, et non seulement pour la concession. Cette loi a introduit l'appel d'offres spécifique et restreint propre à son régime différent de la loi qui régit le marché public. Cette loi aussi accorde une garantie, c'est-à-dire que l'appel d'offres est soumis au conseil des ministres. Juste pour éviter ce que M. Félicien craignait, c'est-à-dire l'enrichissement individuel. C'est tout le gouvernement qui s'engage. Ensuite, cette loi crée un fonds qu'on appelle un fonds pour les générations futures. Nous exploitons le pétrole aujourd'hui. Nous devons nous rassurer que nous avons des enfants et des arrière-enfants qui ont droit à ces ressources. Cette loi renforce évidemment ce que nous appelons le contenu local dans les activités de carbure, dans le sens qu'il faut former les compétences locales, il faut aussi créer des entreprises qui doivent prendre part active aux activités pétrolières. Et il renforce la protection de l'environnement. Tout un chapitre est réservé à ce chapitre, donc à cette question de l'environnement. Je pense que c'est une série d'innovations. Je me limite à ça, mais il y en a beaucoup. J'ai de prendre tous les temps.
Alors, parce que voilà, monsieur le ministre, parce que vous avez insisté sur. En fait, vous venez également d'évoquer les cas de l'environnement. Il y a cette lettre ouverte adressée samedi au chef des gouvernements ougandais et congolais. Les organisations de la société civile environnementale de la région des Grands Lacs fustigent l'exploitation prochaine du pétrole par l'Ouganda dans les lacs Édouard, qui pourrait avoir un impact négatif sur le parc des Virunga, qui est un patrimoine mondial.
Oui, la société civile, à mon sens, se doit d'accompagner le gouvernement, de voir comment le gouvernement travaille, si c'est pour l'intérêt de la population. Il n'y a aucun pays au monde où le pétrole est abandonné suite à ceci ou cela, tel que la société civile le conçoit. Lorsque j'entends Sibiti Félicien dire que c'est une exploitation égoïste, ce sont des affirmations graves. Comme si le gouvernement n'était pas responsable, c'est la société civile qui est mieux placée pour protéger les intérêts de la République. Si vous prenez le pétrole que nous produisons dans le Bakou, dans le Congo central, à peine 23 000 barils par jour, les recettes dans l'ordre de 400 millions de dollars par an, ce n'est pas pour la population locale, ce n'est pas pour le Congo central, ça vient dans le trésor public on paie les gens dans toute la République avec cet argent. Donc, il ne faut pas se mettre à distraire la population avec de telles allégations. Lorsque nous voulons exploiter le pétrole, c'est pour que notre budget national puisse être revu en hausse. Avec 7 milliards, 8 milliards, j'ai toujours répété. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Si Sabiti est à Bukavu, est-ce qu'il peut prendre un véhicule, une voiture, le même jour, il arrive à Kisangani en Bougimaï, je ne pense pas. Mais nous avons besoin de beaucoup d'argent pour construire des autoroutes. Ce n'est pas avec des énergies éoliennes ou, si vous voulez, avec des panneaux solaires que nous allons construire des autoroutes, construire des universités, ainsi de suite. Ce sont des ressources naturelles qui nous donnent de l'argent frais qui nous permet de construire notre pays. Donc, ce sont des discours qu'il faut tenir avec beaucoup d'avantages.
Alors, donc, vous confirmez, monsieur le ministre, les propos du ministre des médias qui, en fait, évoquant la position du gouvernement par rapport à cette lettre ouverte adressée au gouvernement congolais et ougandais en rapport avec les risques, en fait, qui pourraient avoir lieu au niveau du parc de Virunga, qui disait que, disons, cela n'aura pas d'impact qu'évoque la société civile. Donc, en quoi vous propose, c'est qu'il y a plus de peur que de mal.
Il y a plus de peur que de mal, il y a des sous-entendus, je n'ose pas dénoncer sur la radio ici. Vous savez qu'il y a des pays qui exploitent le pétrole dans les aires protégées patrimoine mondial. Et ceux-là qui écrivent pour aller vérifier, qui viennent nous faire rapport si le parc a été détruit. Combien de fois le Brésil a été harcelé pour remonter? Le Brésil est remonté à ses fixes d'être grâce au pétrole. Pourquoi voudrait maintenir la RDC avec un budget de 8 milliards de dollars? Qu'est-ce que nous allons faire? La nouvelle, heureusement, elle est promulguée. Il y a un article qui dispose que pour l'intérêt supérieur de l'État, l'intérêt supérieur de l'État, je rappelle, pas des individus, le gouvernement peut être amené, le conseil des ministres entendu, à désaffecter tout ou une partie du parc pour l'exploitation des ressources naturelles. Donc, c'est la loi, il faut que la société civile apprenne à respecter la loi, comme c'est ça, ce sont des citoyens.
Alors on va revoir les standards avec Clovis qui est à Mbujimaï, et Jordan Aïssirou. Clovis, vous êtes avec nous, bonjour Clovis. Clovis, vous êtes avec nous? Alors on va plutôt Jordan qui est à Aïssirou. Jordan, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité.
Voilà, vous avez la parole Jordan.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense bien les allégations que votre invité vient de faire sont vraiment fondées. Alors, moi, je me demande toujours, comme j'avais posté dans mes commentaires, j'avais dit que la lettre adressée par la société civile des comités des pays de Grand Lac, et la lettre est vraiment salutaire et fondée. Dans tel sens que l'exploitation, elle est une chose. Aussi, la RDC, c'est un pays vraiment champion en termes de la conclusion des contrats. Alors, ces contrats, nous les qualifions de contrats léonais, puisque...
Jordan, il n'y a pas encore de contrat. Je crois que vous avez suivi mon intervention en début de cette émission. J'ai parlé d'une lettre où on fustige l'exploitation prochaine du pétrole par l'Ouganda dans les lacs Édouard. Jusque là, il n'y a pas encore un contrat, parce que d'ailleurs la position des organisations de la société civile qui estime que si l'exploitation se passe du côté ougandais, il y a une possibilité que les effets soient ressentis à RDC. Ce point de vue n'est pas partagé par le gouvernement congolais.
Oui, moi, je le sais. Vous avez dit que la RDC a plusieurs fois signé des contrats avec l'Ouganda en termes de l'exploitation.
Non, j'ai parlé plutôt des conventions. Donc, ce sont les deux pays qui ont signé plusieurs conventions qui protègent les parcs de Virunga, patrimoine mondial.
Oui, vraiment, il est important de protéger la population dans ces pays. Puisque si le pétrole est exploité de façon abusive, c'est au détriment de la population sur le parc qui est abîmé. Alors aujourd'hui on parle de la protection de l'environnement, alors que c'est un espace qui est protégé mondialement. Cet espace ne doit qu'être protégé par le gouvernement congolais et le gouvernement ougandais, puisque si le pétrole est exploité de façon abusive, cela aura des répercussions sur la vie de la population, monsieur le journaliste. C'est ça ce que je vais poster comme commentaire.
Voilà, merci beaucoup Jordan. Et puis bon, on va prendre un autre auditeur qui nous arrive. Il est temps peut-être de rappeler à nos auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent participer à ces débats en composant les 081-890-9315.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Voilà, on va repasser de l'autre côté des standards d'un moment à l'autre, mais il est temps d'abord de revenir dans ces studios et en ligne avec notre invité, monsieur le ministre. C'est vrai, il y a beaucoup de préoccupations qui nous sont parvenues. On va quand même découvrir certains messages. Mais en résumé, la plupart des réactions, les gens insistent. Et par rapport à la curiosité, la plupart aimeraient un peu se faire l'idée sur l'exploitation du pétrole au niveau du parc de Virunga aujourd'hui avec l'entreprise Soko. Où en est-on?
Oui, je voudrais apporter cette précision que tous les pays voisins qui exploitent le pétrole, je veux citer l'Angola, qui a un budget de 65 milliards de dollars, qui affecte 8 milliards rien que pour la défense, c'est-à-dire l'équivalent de notre budget, exploite ça dans la mer, la partie qu'on appelle offshore. Le Congo-Brazzaville exploite dans la mer. Le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, dans tous ces pays côtiers que je cite, c'est dans la mer. Je vous informe que je suis régulier dans ces pays et la pêche se fait normalement. C'est donc dire que cette exploitation n'impacte pas la vie des êtres marins. C'est-à-dire que le poisson se produit, se multiplie, il en aura, il en sera de la même manière avec le lac Edouard et le lac Albert. Donc il n'y a pas de crainte à ce niveau, il ne s'agit pas de jeter de poison dans la mer. On tire le pétrole dans le sous-sol, on l'achemine par pipeline à l'étranger pour vendre. Donc il ne faut pas que les gens se laissent embrouillés par des messages fondés sur des allégations sans preuve. Quand vous venez de me demander la question, c'était sur la situation du parc national de Virunga avec Soko. Soko a fait la gravimétrie, c'est-à-dire qu'il a été la profondeur du lac Édouard, qui varie de 40, donc une moyenne de 40 mètres de profondeur, la partie la plus profonde c'est jusqu'à 120 mètres. Soko a fait une étude, il a évalué la faune et la flore, ce qu'il y a comme espèce d'animaux, espèce d'arbres, des herbes et tout. Soko a aussi fait une partie de ce qu'on appelle l'exploration pétrolière. Le tout dans la définition de ce qu'on appelle EES, étude d'évaluation stratégique. Le Soko attend faire le forage pour être fixé, parce que lorsque vous faites une étude sismique, ça signifie que vous faites une évaluation approximative de la quantité de pétrole qu'il y a. On peut dire que vous avez aujourd'hui 5 milliards ou 4 milliards de barils dans le sous-sol. il faut le forage. Le forage, c'est une étape ultime parce que c'est le forage qui précise maintenant la qualité du pétrole et la quantité exacte du pétrole qui est dans le sous-sol. Cette étape n'est pas encore franchie, comme vous avez suivi à travers des réactions, des accusations ont fusé de toutes parts. Ce Soko est en train de rendre détruire le poisson dans le parc, dans le lac, tenter de rendre stérile les mammouths, l'orchidou. Ça fait rire, mais je suis obligé de dire ça sur la télé pour convaincre les gens qui écoutent la radio, qui lisent. Soko est obligé de pouvoir freiner pour qu'il soit couvert d'un document officiel, c'est-à-dire un accord du gouvernement et l'UNESCO. Et c'est à ce niveau-là. Mais il faut que vous reteniez que nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Nous allons poursuivre l'étude d'évaluation stratégique environnementale dans cette partie-là, en ayant en tête que, conformément à la Constitution, conformément au statut même de l'UNESCO, la République démocratique du Congo conserve et exerce sa souveraineté permanente sur le sol et le sous-sol congolais.
Alors, il y a une question de curiosité, monsieur le ministre. Quand vous avez parlé des innovations apportées par cette loi, vous avez fait mention également de la propriété de l'État. Aujourd'hui, en quoi consiste-t-elle réellement? Est-ce que ça va sécuriser les opérateurs pétroliers?
Quand vous prenez le régime de la concession, par exemple, où l'État donne un bloc pétrolier, cette société est propriétaire et de concession et même des hydrocarbures qui se trouvent dans le système. La nouvelle loi fait donc sienne les dispositions de la Constitution qui dit que la loi, que le sol, le sous-sol, ainsi que toutes les ressources appartiennent à l'État. Les sociétés pétrolières viennent signer un contrat avec le gouvernement congolais, font l'exploration. En cas de découverte commerciale, ils commencent à faire la production. Le pétrole qui est tiré du sous-sol appartient à la vente, ça appartient à la société commerciale qui pourra faire le marketing, vendre et au retour nous donner les royalties, les dividendes et tout ce qui revient au Congo. Donc nous partageons de façon équitable et équilibrée les bénéfices. En réalité, cette loi garantit l'avantage du Congo et l'avantage de la société pétrolière. C'est une loi suffisamment effective de sorte que le pétrolier soit appelé à investir en RDC, sans léser les intérêts de notre pays.
Alors, on va prendre un autre auditeur qui nous a rejoint. Il y en a de nombreux qui attendent d'ailleurs d'intervenir dans cette émission. Maurice, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, Jérémy.
Vous avez la parole, Maurice.
Oui, merci de m'accorder la parole, hier. Je pense que, comme je l'ai dit dans sur votre page Facebook, il y a en dehors en fait, de l'aspect environnemental qui est en fait, soutenu par. Des droits de l'homme, il y a également un problème qui se pose, le problème même, c'est le plus grand problème, c'est sur la gestion, comment les ressources naturelles sont gérées ou ont été gérées de l'indépendance jusqu'à ce jour, et comment seulement les cas de la Liba. Aujourd'hui, aller y voir, comprendre ce qui se passe dans les Kasaï après l'exploitation de minerais là de Bakwanga. Alors, nous voyons aussi ce qui se passe au niveau de Katanga, avec des gros véhicules qui font toujours la pagaille au niveau de Kasumbalé là-bas. Et aujourd'hui, nous devons comprendre comment les populations riveraines sont traitées et quelles sont en fait les retombées réelles de ces exploitations. Les gens pour lesquels nous disons qu'en dehors de cet aspect qui est abordé par les ONG des droits de l'homme, nous devons plus nous attenir, nous, à correspondait ou même au bénéfice que la population devra normalement tirer les dividendes, en fait, comme vous l'avez dit, de cette exploitation.
Oui, mais Maurice, oui, Maurice, le fait que le ministre nous a signifié que au nombre d'innovations portées par cette loi pour un régime des hydrocarbures, il y a cet équilibre. En tout cas, la loi apporte cet équilibre entre les opérateurs pétroliers et l'État. Donc, de part et d'autre, il y a les parties se retrouvent.
Non, le problème, c'est pas, en fait, dans ce qui est déclaré, hein, ce qui est toujours déclaré. Nous sommes dans des faits ici. Parce que nous avons vu les régimes qui sont succédés. Commençons par le premier régime, en fait, au Boutou, et qui a exploité le minerai. Vous avez vu le pillage assez nouvel qui a été constaté dans la gestion, en fait, des minerai. Et lorsque vous parlez, en fait, dans le débat ici, de l'Ouganda comme de la RDC, vous voyez que ce sont deux régimes, en fait, jumeaux, qui ont le même système, en fait, de gouvernance, les mêmes pratiques dans leur gouvernance, et qui est vraiment axé essentiellement dans le pillage à outrance des ressources naturelles du pays. Alors, je ne vois pas pour quelles raisons. Moi, je pense qu'on doit taire d'abord, on doit continuer d'abord à plier ces
Maurice, là, vous vous référez à. Vous avez quelle référence par rapport à vos déclarations? Quelles sont vos références?
Les références, c'est par rapport aux productions. Quand je prends les productions, c'est au niveau des cuivres.
Nous sommes dans le secteur du pétrole.
Dans le secteur du pétrole, oui. Quand on parle du secteur du pétrole, nous sommes toujours en train de parler de la même exploitation. Autant qu'on l'a dit, en fait, qu'on l'aborde dans les secteurs, en fait, des minéraux, dans les secteurs aussi de forestiers. Alors, c'est toujours les ressources du pays. Nous pensons qu'on doit d'abord arrêter cela. Parce qu'on doit d'abord, les Congolais doivent voir clair par rapport à ce qui est d'abord exploité.
Raison pour laquelle actuellement il y a une législation qui en fait, le secteur souffrait de l'existence de cette législation pour pouvoir réguler et encadrer les secteurs dans ce sens. Parce que bon, semble-t-il qu'il y avait un petit désordre selon les rapports des uns et des autres.
Mais les désordres, oui, c'est ce que nous disons. Donc, je pense que s'il y a des ordres, on doit d'abord commencer par l'observer à travers ce qui existe déjà, ce qui est déjà exploité, en fait, en cours d'exploitation, comme au niveau du Katanga, au niveau d'autres secteurs, au Mwanda, tout ça. Mais maintenant, pour ce qui est de l'Akaber, je pense qu'on doit d'abord, en fait, arrêter cette production ou cette exploration pour d'abord mettre des ordres, parce qu'on ne peut pas comprendre un pays riche, richissime nous-mêmes, il y a de toutes les ressources naturelles et qu'il faut consommer le problème de budget, avec un budget de 4 milliards, 3 milliards de demi, et pendant que là, on parle des productions d'or, des productions de pétrole, des productions de cuivre en termes de millions de tonnes, même de cuivre on parle en termes en termes de millions de tonnes, mais avec un budget maigre. Et on nous apprend ça toujours qu'il y a 15 milliards de dollars américains plutôt.
Voilà, merci beaucoup.
Je pense qu'on va mettre d'abord de la discipline sur ce qui existe avant de le penser à exploiter ce qui est d'abord qu'on doit réserver à M. Lyon.
Voilà, merci beaucoup. Parce que la production, elle est déficitaire. Nous l'avons abordé par plusieurs fois. Aujourd'hui, l'exploitation, selon certains observateurs, de bloc 5, ça pourrait être une des solutions pouvant booster les niveaux de la production pétrolière et gazière en République démocratique du Congo. Vous ne partagez pas ces points de vue. Merci beaucoup, Maurice. Nous vous les concédons parce qu'il s'agit là d'un échange citoyen dans ces débats. David, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, David.
Oui, bonjour, Lier.
Vous avez la parole, David. Quel est votre point de vue?
Merci pour la parole. Bonjour à son Excellence. J'ai deux petites préoccupations par rapport à ce débat. La première est de savoir, parce que le ministre a affirmé dans son introduction que cette loi consacre l'appartenance de toutes les richesses à la République démocratique du Congo. En lisant notre constitution, la constitution dit l'État est le Congo a une souveraineté sur les territoires nationaux. L'État n'a qu'une souveraineté, et alors que la loi Kapajik a été abrogée, qui donnait le sol et le sous-sol appartenait à l'État. Et est-ce que là, ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas une violation par rapport à l'esprit de la Constitution? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à la conférence sur l'environnement qui aura lieu en décembre en France. Oui, la République démocratique du Congo cherche à avoir de bénéfices, hein, à accroître son enveloppe par rapport, je crois, c'est une taxe sur le carbone ou tout ça par rapport à la conservation de la nature. On cherche à avoir une enveloppe consistante de l'autre côté, et de l'autre côté, la loi vient dire que l'État fait, par exemple, les parcs de Virunga, on peut prendre les parties et exploiter. Mais pas là des contradictions, et personnellement, donc, je ne comprends pas vraiment.
Merci beaucoup. Je crois qu'il s'agit là d'une préoccupation directe. Monsieur le ministre, vous êtes avec nous en ligne. Que répondez-vous à David qui est à Lubumbashi?
Je voudrais d'abord, en première intervention, pour dire que il a des soucis peut-être réels sur le sol, que sur le sol reconnu par toutes les sociétés minières qui sont maintenant peut-être en difficulté. Mais il doit reconnaître aussi que ce sont des sociétés minières qui ont fait la fierté et la base même du budget de la RDC depuis l'indépendance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu pillage comme lui le prétend, sinon le budget de la nation. La RDC du Zaïre à l'époque n'allait pas être fondée essentiellement sur les minerais. S'il arrive aujourd'hui en Bougemaï, il va être une situation un peu catastrophique. Et pourtant, c'était la MIBA qui faisait la fierté de Mbujimaï. C'est-à-dire donc dire qu'il y a un moment, c'est comme pour le pétrole. Lorsque nous produisons le pétrole, il y a le départ, et ça passe. Lorsque ça atteint le pic, c'est-à-dire le sommet, la production commence à baisser et on prévoit un fonds juste pour préparer le démantèlement. Ce sont des qu'on appelle les ressources, quelle expression dit, qui sont épuisables à ce qui concerne le pétrole. Mais s'il formule des inquiétudes vis-à-vis des Congolais et des Ougandais qui ont la prétention légitime de produire le pétrole dans le lac Albert, alors il souhaite que nous puissions suspendre, attendre que les anges viennent faire à notre place. Parce qu'il n'a pas confiance aux Congolais ni aux Ougandais. Donc même à lui-même, il n'a pas confiance. Devrons attendre que les anges viennent faire à notre place. Pour le deuxième intervenant, je voudrais dire que la Constitution a valeur supérieure à la loi Bakajika. Il consulte seulement la dernière version de la Constitution de 2006, qui dit que la RDC, l'État congolais, exerce sa souveraineté permanente. Il cite le sol, le sous-sol, l'espace aérien, maritime, plateau continental, tout est énuméré. La loi sur les hydrocarbures ne vient que confirmer. Donc, nous ne sommes pas à marge de la Constitution. La loi Bakajika a été pratiquement reconduite par le terme de la Constitution. Il n'y a pas donc contradiction à ce niveau. Quel était encore le deuxième volet de sa question?
Oui, parce qu'il parlait de la conférence qui va se tenir en décembre, France, avec le carbone, voilà.
C'est ça. C'est bien. La RDC n'offre pas seulement que le lac ni le lac d'or comme c'est environnemental pour l'humanité. Nous avons toute une forêt sur la deuxième monde. La RDC donne beaucoup à l'UNESCO, donne beaucoup à l'environnement. Et il ne faut pas se mettre ou se leurrer en disant que nous allons cette conférence arrachée. Vous pouvez obtenir 20 millions de dollars. On peut vous accorder 40 ou 80 millions de dollars. Je vous dis que c'est absolument rien par rapport aux besoins pour le développement de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État dit, pour nous avons besoin de milliards et non de millions. Vous n'allez pas en France arracher un milliard là-bas. Détrompez-vous déjà de fils. Détrompez-vous, vous n'allez pas arracher des milliards. Mais je vous garantis que si l'exploitation démarre dans le lac Albert, dans le lac Édouard et Albert, le budget de 8 milliards peut atteindre 20 milliards, contrairement à ce que vous croyez. Donc, il ne faut pas réduire la RDC ou tirer notre pays vers le bas. pendant que les pays voisins font de leurs recherches sur le pétrole, leur budget s'améliore et ils se développent à un rythme beaucoup plus accéléré que nous ici. C'est grâce au pétrole. Je me répète, vous ne trouverez aucun pays au monde qui a renoncé de produire le pétrole parce que c'est dans la forêt, parce que c'est dans les eaux, parce que c'est dans les fleuves.
Alors, oui, alors, monsieur le ministre, vous avez parlé de CPP, des contrats de partage de production. Est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur la répartition exacte, telle qu'est définie dans la loi?
En fait, il est de principe que lorsque nous signons un contrat de partage de production, vous entrez dans la fiscalité qui a une spécificité. La société pétrolière commence par l'exploration et la production si la découverte est importante. Après la découverte, la production commence et la société qui produit s'arrange avec l'État congolais pour évacuer, pour exporter. Une fois vendu, l'État récupère d'abord, je crois, 12% de ce qu'on appelle les royalties. L'État est d'office propriétaire, l'autorité du sol, on lui donne les 12%. Ça, c'est un acquis. Ensuite, l'État congolais, les deux parties s'attendent pour que le contrat prévoit que la société puisse commencer à récupérer les différentes dépenses qu'elle a effectuées depuis l'exploration jusqu'à la production, en passant par le développement. Il ne va pas récupérer d'un seul coup. Une fois cette partie récupérée par la société, ça se fait progressivement, il va rester ce qu'on appelle la marge distribuable, c'est-à-dire le bénéfice restant que l'État partage avec la société équitablement. Donc c'est de cette manière qu'il faut voir les choses. Ce n'est plus comme prétendent certains que l'État est roulé dans la poussière et à Lyonnais, tout est bien tracé. Nous avons des inspecteurs spécialisés du ministère des Finances qui travaillent aux contributions, d'autres à la DGTR, qui nous accompagnent étroitement dans le calcul de toutes ces.
Alors, une idée, monsieur le ministre, quel est le temps qui sépare la prospection, l'exploration, l'exploitation et l'évaluation? Est-ce que cela a été défini dans cette nouvelle loi?
C'est difficile de faire une définition dans la loi. Il faut que je vous rappelle que la loi a introduit une innovation. Compte tenu de la superficie de réalité géologique et géographique de notre pays, nous avons catégorisé le pays en 4 zones. Il y a des zones d'accès facile. Imaginez la bande côtière. Vous attribuez un contrat à quelqu'un, il se met à explorer et il trouve, il va produire plus rapidement que celui qui va se retrouver, par exemple, à Boende. On sait bien la RDC. L'accès par fleuve, par rivière, à travers forêt et marécage, il aura la tâche plus difficile, donc étant plus long. Tout se calcule dans le contrat. En principe, lorsque la société a fait la découverte, il faut qu'il cherche la voie d'évacuation. Le cas que nous avons, par exemple, dans le lac Albert, dans le lac Édouard. Aujourd'hui, l'Ouganda, même s'il en avance par rapport à la RDC, ne peut pas se mettre à produire déjà. Parce qu'il faut qu'avec nous, nous nous convenions pour construire le pipeline de ce lac jusqu'à l'océan Indien. Sans cela, la production ne peut démarrer. Il en est de même, si vous faites la découverte de la cuvette centrale, la production ne démarre pas tant que vous n'aurez pas tracé le pipeline, construit le pipeline qui relie les lieux de production à la haute mer, l'endroit le mieux indiqué pour évacuer par navire vers les acheteurs. Le contrat, en principe, a une durée de 5 ans, renouvelable. Mais les 5 ans se répartissent par des périodes qu'on appelle des heures. On dit de telle période à telle période, vous faites ceci, vous faites cela. De telle période, et il y a un audit un comité d'observation qui assure le suivi de toutes ces activités. C'est donc dire qu'on ne donne pas un contrat aléatoire.
Aléatoire, et puis. Mais parce que la.
Le contrat s'est terminé. Mmh. Si ne fait rien, nous sommes obligés de.
Oui, parce que dans les erreurs, les documents tiennent compte des erreurs du passé. On a remarqué peut-être dans les exploitations au niveau du Bas-Congo, des entreprises qui sont restées pendant plus longtemps dans la phase d'exploration. Et au moment où l'État devait se retrouver ou trouver son compte, cette entreprise ou la société civile fustigée, en fait, l'éternité dans laquelle étaient plongées en fait, ces entreprises pétrolières dans l'exploration, et ce qui a fait qu'on a perdu les temps inutilement au pays.
Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas que l'État. Il y a aussi, dès le départ, à qui vous donnez le bloc pétrolier. Les droits miniers des hydrocarbures, il faut donner à celui qui a la capacité financière et technique. Dans le cas contraire, il va tergiverser, il prend le contrat, il commence à chercher d'autres preneurs, d'autres financiers, et les temps coulent, les temps passent et le pays perd. Il faut donner à celui qui réunit toutes les conditions nécessaires pour qu'il se mette au travail dès le départ.
Voilà, on va prendre deux auditeurs qui nous ont rejoints. Il y a Bintou qui est à Kimpese, Kema Bukungu. Bintou, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à monsieur le ministre.
Vous avez la parole, Bintou. Quel est votre point de vue?
Bon, j'ai juste des petites questions. Pour que j'ai toujours le téléministre du bébé à la fin, juste maintenant, il a parlé plus des avantages sur le code sur les hydrocarbures. Alors, qu'il s'agit de petites questions, s'il n'y a pas aussi d'inconvénients dans l'exploitation du pétrole comme les ONG sont en train de le décrier. Juste le ministre ne nous montre que des avantages. Deuxième petite question, je voudrais savoir, monsieur le ministre, quelle est la potentialité de la RDC en réserve des hydrocarbures? Et notre exploitation va durer combien de temps? Il y a d'autres ressources que nous avons exploitées, mais qui n'ont pas bénéficié à la population congolaise, pratiquement aux personnes habitant les milieux. Si on vous a rappelé le cas de la ville Miba et de la compagnie Miba en Bujimaï, malgré cette exploitation, Bujimaï ne dispose ni des routes ni des infrastructures fiables. Pour terminer, monsieur le ministre, l'exploitation du pétrole à Moanda, ça existe depuis des années, mais pourquoi la route Moanda, Bomane, toujours pas passé jusqu'à ce jour?
Oui, est-ce que vous avez une idée? Bintou. Je crois qu'au niveau de Moanda, oui. Ou encore dans le Bas-Congo, on sait que c'est Surestrum qui continue à exploiter. Il y avait quand même ce qu'on a appelé la communauté des bases, des gens qui travaillaient, la communauté locale qui travaillait pour, en fait, les contrats sociaux, pour permettre à ce que la population puisse se retrouver dans cette exploitation. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Les routes sont toujours dans un état de délabrement très avancé, où les actions sociales ne sont pas visibles?
Alors, les actions sociales ne sont pas visibles sur le terrain. Est-ce que vous avez vu que la route Moanda Bom est déjà asphaltée depuis l'exploitation du pétrole juste pendant que Kabinda qui est à côté de Moanda est très développée par rapport à Moanda?
Voilà, merci beaucoup Bintou. Clément, vous êtes à Bukungu, à l'Équateur. Alors, bonjour Clément.
Bonjour Monsieur G.
Vous avez la parole Clément.
Oui, je voulais un peu poser cette petite question à son excellence Monsieur le ministre. À l'époque de la Deuxième République, dans le cadre de relations bilatérales entre Zaïre et Canada, il y avait une équipe canadienne qui sont arrivées en Bandaka pour faire la prospection. Et ils ont confirmé qu'il y avait le pétrole. Alors c'était un problème, il faut extraire en Bandaka et le raffinage ailleurs. Et c'est ce qui a posé le problème. Et je voudrais un peu poser cette petite question à son excellence, si là au moins une idée sur ce pétrole-là de Mbandaka.
Merci beaucoup Clément. 081-890-6315 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, pour ces deux interventions, en tout cas, nous avons compris une chose. La dernière personne, en fait, évoque la question sur la raffinerie, la problématique des raffinages de tous ces produits pétroliers. Et le premier, lui, il est revenu sur, en fait, le contrat social entre ces opérateurs pétroliers et la population qui devait, en principe, trouver leur compte. Est-ce que la loi parle de tout ça?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce sont des questions très intéressantes. Si je prends l'avant-dernier intervenant, il dit que je ne fais qu'évoquer les avantages sans mentionner les inconvénients. Il dit la vérité dans la mesure où c'est impossible de pouvoir exploiter le pétrole sans désagrément quelque part. Lorsqu'on a trouvé un bloc pétrolier, inévitablement, ce n'est pas sur la terre vide, il y a des personnes qu'il faut déplacer. Il y a des champs qu'il faut nécessairement abandonner. Tout comme toute exploitation pétrolière peut entraîner des déversements, des pollutions, il est fait une obligation à la société, ce que nous appelons une obligation sans responsabilité. Une responsabilité sans cause, je voudrais dire. C'est-à-dire, la société qui exploite le pétrole s'engage automatiquement à désintéresser, à dédommager les victimes de pareilles circonstances. C'est pour répondre à la première préoccupation. À la deuxième préoccupation, il veut connaître les potentialités pétrolières de la RDC. Bon, je n'ai pas la carte. Il n'a pas la carte devant lui. Je voudrais seulement l'informer que quand vous prenez le bassin côtier, qui atteint jusqu'au niveau de Mbandabo, les indices de pétrole sont nombreux. Les géologues parcourent jusqu'au niveau de Kinshasa. Il y a une potentialité, mais qu'il faudra démontrer à partir de l'exploration. Lorsqu'on a des données certifiées, ça se marque qu'on peut parler de potentialités sûres. Mais les indices pétroliers, il y en a beaucoup dans le bassin côtier. Au niveau de la cuvette centrale, c'est énorme. Les géologues, comme a dit l'homme de Bokougou, non pas seulement Mbandaka, Abikoro, Akiri, Abekese, même chez lui à Bokougou, il y a des indices sérieux de pétrole. De la province orientale. Déjà à partir de Ikela, Opala, Basoko, Banalia jusqu'à Akitibuta, il y a des potentialités de pétrole. Vous descendez vers Ubundu, le Manema, vous trouvez du pétrole. Sans oublier le rift est congolien, c'est-à-dire la partie est, à partir de la Calbère jusqu'au lac Moero. Le fossé qu'on appelle le rift. Le lac Albert, le lac Edouard, le lac Kivu, le lac Tanganyika, Moero, au fond de gorge de pétrole. Mais ce sont des zones qui n'ont pas encore fait l'objet d'une attribution de droits des hydrocarbures pour exploration. Ce qui fait que ce sont des indices sérieux qui nous poussent à tracer cette carte géologique, si vous voulez, de la RDC en ce qui concerne les hydrocarbures. Il a parlé de la population riveraine. Quels sont ses droits? De par les contrats qui viennent d'être les dispositions contractuelles existantes ont été renforcées par la loi actuelle. Il est fait une obligation à la société qui exploite de prendre à charge les effets négatifs par compensation. Il est obligé, cette société est obligée de construire des écoles, des centres de santé, des centres à caractère culturel, même quelques routes à dessert agricole pour la population. Le montant affecté est annuel et proportionnel suivant qu'on est en phase d'exploration ou on est en phase d'exploitation. Comme je l'ai dit, ce sont des opérations à risque, elles sont de coût récupérable. Lorsque une société a le bloc pétrolier dans votre village, qui vient vous construire une école, qui vient construire un centre de santé, le pont, même un centre vétérinaire, ce n'est pas pour vos beaux yeux. C'est-à-dire qu'il est fait, mais il se fera rembourser après la production. Ça signifie qu'en phase d'exploration, on fixe un montant délimité pour que la population ne fasse pas trop de dépenses, parce que s'il ne fait pas de découvertes, il sera obligé de s'en aller, il ne saura comment rembourser, il va faire une perte sèche. Mais c'est lorsqu'il y a la production, on est sûr, après des découvertes, qu'il se sera remboursé. Donc le volume d'intervention sociale pour la population rivière peut être revu en hausse. Il y a plein de programmes Route Rwanda, banane, Route Bomba Mwanda, banane. Je pense qu'il a déjà été à Mwanda, celui-là. Je doute que Mwanda ait le même niveau que Djimbula, sur le Congo central, ou de Luozi. Mwanda a un développement supérieur à plusieurs territoires du Japon, du Congo central. Du pétrole, ce n'est pas parce que les Asolongo, les Asoyo sont des bons des travailleurs. C'est la cité pétrole qui fait ce développement. Par contre, la route, Boma, Matadi, Mwanda, ça c'est le gouvernement central qui
voilà,
a un budget pour ça. Merci. On ne peut pas demander à la société
de faire quelque chose.
De route.
Voilà, il faudrait encore que. Tout à fait. Il faudrait que tout ça soit bien défini et clairement défini dans la loi pour permettre aux uns et aux autres de se faire une idée très claire pour éviter toute supputation. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous rappelons que vous êtes Crispin Atama, ministre des Hydrocarbures, d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci.
Voilà, on se retrouve demain dans un autre débat de Parole aux auditeurs. Merci à Alain Goy qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Julie César Bongonda. Notez que cette émission vous a été coordonnée et présentée par Jérôme Gembo sous la supervision de Léona Moulamba. À très bientôt.